Monsieur Jocelyn Caron, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien? Oui.
Oui, vous?
Ça va super, je vous remercie. Vous êtes directeur général de Fine Autonome. Avant de plonger dans le vif du sujet, expliquez-nous un peu d'abord qu'est-ce que Fine Autonome?
Fine Autonome, c'est une ONG qui travaille sur les questions financières des personnes en situation de handicap, qui travaille à améliorer leurs conditions financières. Beaucoup d'organismes existent, heureusement, pour les personnes en situation de handicap. Mais il y avait une espèce de manque, une espèce de trou où les questions financières étaient souvent peu traitées. Alors nous, notre mission, c'est à travers les mécanismes qui existent déjà, à travers les représentations qu'on va faire, de faire en sorte que la condition financière des personnes en situation de handicap s'améliore.
D'accord. Alors, vous n'êtes pas une institution financière.
Oh
Voilà.
non,
C'est...
on est un organisme de charité
Voilà.
enregistré, un organisme sans but lucratif et aussi enregistré comme organisme de charité.
Parfait.
Donc, absolument pas.
Bon, alors maintenant qu'on a mis ça au clair, parlons un peu de ce qui nous préoccupe. Vous avez fait une petite étude statistique qui démontre que les Québécois et Québécoises en situation de handicap ne profitent pas autant que les autres au pays des avantages qui leur sont proposés.
Ben, c'est effectivement le cas. C'est même un peu, je dirais, la genèse de notre
OK.
organisation. On a parvenu à convaincre des bailleurs de fonds d'embarquer dans le projet parce que statistiquement, il y avait vraiment des éléments, les signaux d'alarme importants à ce sujet-là. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est l'outil principal du gouvernement fédéral à destination des personnes en situation de handicap, eh bien, au Québec, on le demande à le pourcentage de la population qui a obtenu le CIPH, c'est à 2,2 %. Puis la moyenne canadienne, c'est 4,3 %.
Alors,
Nous sommes vraiment là, la province qui en demande le moins et de loin.
Ah, mais ça peut pas être parce que, oh, il y a moins de personnes en situation de handicap au Québec parce que pour une raison quelconque, c'est le même échantillonnage sur des millions de personnes. On ne peut pas penser que vivant en Amérique du Nord, dans le même pays, que tout
Exactement.
d'un
Mais
coup,
tu sais,
il y a moins de situations d'handicap ici.
vous avez saisi exactement le problème. Puis même, on a voulu vérifier cette question-là. On a voulu se dire, ben, statistiquement, est-ce qu'il y aurait moins de personnes en situation de handicap? Alors, le recensement est toujours une partie de questions sur cet enjeu-là. Puis au dernier recensement, on se rend compte, c'est de l'autodéclaration, hein, donc c'est
Oui,
peut-être pas
tout à fait.
évidemment genre tout si on veut diagnostiquer, mais de l'autodéclaration. Selon l'autodéclaration que les Québécois font, nous serions avec vraiment moins de personnes en situation
OK.
d'handicap de manière statistiquement significative, mais nous, on ne croit pas à
Oui,
ça.
en
C'est-à-dire
fait,
que
peut-être c'est que les Québécois en situation de handicap, il y en a une certaine portion, du moins, qui ne se perçoivent pas comme étant en situation d'handicap
Exactement, exactement.
ou qui considèrent leur situation comme étant, le terme n'est pas juste, mais normal ou rien de spécial. Puis,
Exactement.
alors que de fait, dans d'autres circonstances, dans un autre cadre, ils seraient considérés comme étant en situation d'handicap.
Exactement ça. Vous l'avez, c'est exactement ça. Alors nous, sans rentrer dans les détails, on a commencé à produire, on a donné ça à des chercheurs universitaires. On va produire des études pour comprendre ce phénomène-là qui nous est ressorti. Mais ça a l'effet direct que les aides qui existent pour les personnes en situation de handicap ou de leur famille sont sous-utilisées au Québec, en tout cas celles du gouvernement fédéral, de manière importante.
Parce que,
Puis nous, ben, on vise à renverser cette tendance-là.
ben oui, tout à fait, parce que c'est comme de l'argent qu'on laisse sur la table, entre guillemets, et souvent les personnes, la majorité des personnes en situation de handicap ont des situations financières précaires. Alors,
Oui.
on n'a certainement pas tous ou toutes les moyens de laisser cet argent-là de côté. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées au fédéral, c'est un peu la porte d'entrée à toutes sortes d'autres mesures. Et c'est là que ça
Effectivement.
commence.
Effectivement, nous, on a l'habitude d'appeler ça dans nos formations, c'est un passeport. C'est une espèce de certification. Le gouvernement fédéral, en fait, une fois qu'on se voit octroyer le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ça peut être de manière temporaire ou permanente. Généralement, ça va vers le permanent parce que les situations qui s'accouplent sont quand même assez lourdes. Ben, va toujours se référer au CIPH pour d'autres aides pour les personnes handicapées. Ils vont dire, avez-vous votre CIPH? Oui, bien, vous avez le droit à tel autre crédit d'impôt, vous avez le droit à un RIS, vous avez le droit à d'autres choses. Donc, c'est effectivement ça, vous avez saisi l'enjeu. Donc, quand les gens ne font pas la demande du crédit pour l'impôt pour personnes handicapées, automatiquement, elles se privent de plusieurs aides.
De d'autres choses.
Auxquelles elles auraient droit.
Tout à fait. Pendant de nombreuses années, on reprochait à l'Agence de revenus du Canada la lourdeur du processus pour obtenir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'était très long. Il y avait un questionnaire souvent complexe à remplir et des définitions qui étaient parfois un peu étroites. Est-ce qu'il y a eu une amélioration au cours des dernières années à ce sujet-là? Est-ce que c'est toujours aussi pénible de le faire?
Bien, je vous dirais que c'est un peu moins pénible, mm-hmm. dans le sens que le formulaire a été changé.
D'accord.
Et pas mal plus clair de l'optique mm-hmm. des médecins qui ont le rempli. Alors, si les gens, on les encourage à le faire, si les gens font la demande du CIPH, bien, traditionnellement, ils vont prendre le formulaire. Ils vont mettre leur nom sur le dessus puis leurs coordonnées personnelles et le reste est à remplir par un médecin ou un professionnel de la santé. Maintenant, c'est rendu plus simple puis il y a moins de chances que le médecin, disons, se trompe quand mm-hmm. il remplit le formulaire. Une fois que le formulaire est rempli, ben il suffit de l'envoyer à l'Agence du revenu par la poste et puis d'en conserver une copie. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Puis maintenant que le formulaire est simplifié, il y a des graphiques qui font que c'est plus facile pour les professionnels de la santé. Bien, je vous dirais que les chances ont augmenté un petit peu.
Si quelqu'un nous entend et a, je dirais, un peu abandonné l'affaire il y a quelques années parce que le formulaire était trop... était comme une montagne à gravir, bien, on serait peut-être avisé de recommencer avec un formulaire plus simple là, puis bien de s'assurer qu'on ne laisse pas cette pierre-là non retournée.
Non, exactement. Puis de toute façon, c'est en grande partie le professionnel de la santé qui va le remplir. Donc, mm-hmm. vous avez à vous présenter et puis à laisser le professionnel faire son travail. De toute façon, le CIPH, il n'y a pas de limite hein, au nombre de fois où on peut demander le crédit d'impôt. On peut se le voir refuser faire des processus mm-hmm. d'appel, mais si deux ans plus tard, un an plus tard, oui. des années plus tard, votre situation change, ben vous êtes fortement encouragé à refaire une demande.
Et c'est rétroactif aussi. Si on peut prouver que la situation prévalait avant la demande du crédit d'impôt, le gouvernement peut retourner derrière.
Oui.
Et vous accorder jusqu'à 10 ans, ce qui n'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Il y a des gens qui ont des très grandes surprises, réalisent qu'ils ont droit à ce crédit d'impôt-là. Vont voir leur médecin. Le médecin atteste que ça fait 5, 6, 7 ans que la condition de la personne est celle qu'il déclare au formulaire et se voit rembourser tout ce que ça peut être remboursé. Et ça se fait automatiquement aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que une fois que vous envoyez votre formulaire, pour ce qui est de la partie crédit d'impôt, pas ce qui est obtenu avec le crédit d'impôt, mais la partie crédit d'impôt en tant que telle, mm-hmm. c'est recalculé automatiquement par l'Agence de revenus puis ça vous est renvoyé. Donc, pour cette partie-là uniquement, vous n'avez pas à refaire vos déclarations d'impôt.
Oui, c'est parce que ce serait d'autres montagnes à surmonter.
Ouais, exactement.
Mais, une chose qui souvent peut... Le crédit d'impôt, et je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, le crédit d'impôt pour personnes handicapées est un crédit non remboursable. Ce qui veut dire que si quelqu'un a un revenu très faible et à toute fin pratique ne paye pas d'impôt, ce crédit-là pourrait ne pas se traduire par une somme que l'on reçoit par la poste, mais ça ne devrait pas vous empêcher de l'obtenir parce qu'avec ce crédit-là, vous ouvrez la porte à beaucoup d'autres choses. Et
exactement.
C'est peut-être là aussi que les gens arrêtent un peu trop vite dans leur raisonnement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Nous, on pense que c'est un des facteurs qui font que les gens ne vont pas demander le crédit d'impôt en se disant ben j'ai un faible revenu, de toute façon ça ne sert à rien. Mais là, on a parlé de l'aspect passeport.
Oui.
D'une part, ça ouvre la porte au RI, donc une fois que le CIPH peut avoir le régime enrichi d'épargne invalidité, on pourra en parler plus spécifiquement, c'est un régime intéressant. Mais souvent, quand il y a des situations un peu inusitées, le gouvernement va prendre ce passeport-là et va dire, par exemple, dans le cas de la COVID, l'an dernier, le gouvernement mmh. a annoncé un montant de 600 $ d'aide
directe.
Fait. Aux personnes handicapées.
Il y a un an de ça. Oui.
Handicap, il y a un an de ça, à l'automne. Puis qu'est-ce que le gouvernement a fait? Bien, il a dit, ceux qui ont le CIPH vont
pouvoir recevoir 600 $.
Oui, automatiquement. donc, peu importe le revenu.
Exact.
Donc, quelqu'un qui n'avait pas le CIPH en se disant « ben ça ne change rien parce que j'ai un revenu faible
ben, »,
aurait eu droit quand même à cette aide-là.
À ce montant-là, tout à fait.
Là-dessus, en disant « allez chercher votre CIPH, c'est quand même jusqu'à 600 $ qui peut vous être versé. »
Exact. Et le CIPH, donc, permet de se qualifier pour le régime enregistré d'épargne invalidité.
Oui.
Régime
oui.
qui, encore une fois, c'est un peu la même conséquence que la faible autodéclaration auprès des statisticiens, la faible inscription par rapport au reste du Canada au CIPH, au crédit d'impôt. Bien, il y a moins de Québécois, de Québécoises qui ont des régimes enregistrés d'épargne invalidité que les autres Canadiens et Canadiennes.
Tout à fait. Ça va ensemble, hein? La moyenne dans la population de chaque province, de la population qui a ouvert un RII, c'est 0,5%.
Mm-hmm.
Puis au Québec, c'est 0,3%. On est la province qui ouvre le moins de RII. Donc, il y a une relation causale à notre avis direct entre le fait de ne pas demander le CPH puis de ne pas demander le RII. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de l'argent qui est laissé sur la table parce que
oui.
c'est un régime qui est subventionné, c'est-à-dire que le gouvernement vous aide quand vous ouvrez un RII et met de l'argent
oui,
dans le RII.
Dans la caisse, tout à fait.
Ben, exactement.
Je vous remercie beaucoup, M. Caron, et on va se reparler du régime enregistré d'épargne invalidité parce qu'en soi, c'est un sujet qui mérite tout à fait d'être discuté.
Je vous remercie. Je vais reprendre votre invitation quand vous le souhaitez. Puis
parfait.
J'invite les gens à aller sur notre site internet argentvousattend.ca pour
excellent.
Voir les détails de l'information dont on a parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci. Au revoir.